Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'ordre du jour de la nouvelle urbaine est accentué au développement et au changement climatique. L'Indonésie accentue l'approche culturelle dans le développement urbain. Rencontrer le président Joko Widodo, les PDG des entreprises japonaises sont heureux d'entendre l'amélioration de l'économie. Le Parti national démocrate a soutenu le ministère indonésien des Affaires étrangères concernant la mer de Chine méridionale. Le Conseil de coordination des investissements BKPM cible l'augmentation de la valeur d'investissement du nouveau président du BKPM. Et enfin, l'Indonésie est demandée d'arrêter les atrocités au Cachemire. Voici le journal complet. Le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'Habitat, Juan Clo, a dit le mercredi à Surabaya que tous les pays et participants étant inclus dans le comité préparatoire de la troisième conférence d'Habitat à Surabaya, Java East, montrent l'engagement solide pour préparer le projet de nouveau programme urbain d'être valide dans la troisième conférence d'Habitat l'octobre prochain. Il a dit qu'il y a deux problèmes liés à l'urbanisation qui deviennent l'objet principal de la discussion du nouvel agenda urbain, à savoir le développement urbain et le changement climatique.
And those main issues are related to two aspects very specifically. One is development, that's to say that urbanization should be considered as a tool for development.
Les deux questions principales sont la première est le développement urbain. L'urbanisation doit être placée comme un outil à des fins de développement. Et le second est le changement climatique. L'urbanisation doit être exécutée en conformité avec les efforts que nous avons convenus à Paris le décembre dernier, à savoir le but de diminuer la température de la planète de Terre par 1,5 degrés Celsius. Selon Juan Clos, afin de résoudre ces deux questions, la conception du nouvel programme urbain doit changer le processus d'urbanisation pour réduire les problèmes résultant souvent, tels que la mise en terre. Il a dit que le gouvernement de chaque pays devrait être en mesure de faire de la politique fondée sur les efforts pour soutenir l'amélioration du système d'urbanisation. Ceci a besoin d'une politique à long terme, un engagement fort du gouvernement et le soutien de toutes les parties. La délégation indonésienne donne la priorité à la culture d'être une nouvelle dimension et les relations complémentaires des villages dans le comité préparatoire 3 à l'approche de la troisième conférence d'habitat à Surabaya. Le leader du comité préparatoire 3, Rina Agustin Indriani, le mercredi à Surabaya a dit « L'aspect culturel devient l'une des dimensions de développement urbain continuel à compléter les aspects sociaux, économiques et d'environnement. » Selon Rina, la culture devient un aspect important dans le développement de l'identité urbaine.
Jadi ada satu dimensi yang menjadi penting untuk dimasukkan yaitu mengenai budaya.
Donc, il y a une dimension importante d'être inclus, à savoir la culture. La culture devient l'aspect important dans le développement urbain, si bien qu'une ville possède l'identité. À Surabaya, par exemple, on ne développe pas seulement la physique, mais aussi les dimensions sociales et culturelles. Rina Agustin Indriani, étant aussi secrétaire du directorat général de Cipta Karya du ministère du Développement public du Peuple, a ajouté dans les zones îles et les liens entre les zones terrestres et marines deviennent l'entrée qui est reçue par tous les pays. Selon Rina, les avantages de la résilience urbaine doivent être bénéfiques pour la communauté. Elle a également souligné l'importance d'intégrer la société et de l'urbanisation dans la meilleure planification urbaine. Le président Joko Widodo a été accompagné par l'ancien premier ministre japonais Yasuo Fukuda, a fait une déclaration de presse à la suite d'une réunion au Palais d'État Jakarta mercredi. Le président Joko Widodo a affirmé que la réunion avec les PDG des plus grandes entreprises du Japon regroupées dans l'association Japon-Indonésie dirigée par Yasuo Fukuda avait montré une grande confiance. Parce que Yasuo Fukuda a déclaré que la stabilité politique et économique en Indonésie est beaucoup mieux par rapport à d'autres pays. Yasuo Fukuda a déclaré que dans une réunion avec le président Joko Widodo, il a discuté des questions économiques et l'importance de la stabilité économique et la prospérité en Indonésie. Un politicien du Parti National Démocrate, Nasdem, Martin Manurung, a soutenu le ministère des Affaires étrangères relative à la résolution des conflits de la mer de Chine méridionale. Il a expliqué que le parti Nasdem soutient la mission du ministère des Affaires étrangères pour résoudre la limite territoriale de l'Indonésie en mer avec les pays voisins. Martin a déclaré que le gouvernement devait respecter le droit international et garder la paix liée à la décision du tribunal d'arbitrage de la Convention de l'ONU sur le droit de mer des conflits en mer de Chine méridionale le 12 juillet 2016. Selon lui, tous les citoyens indonésiens peuvent soutenir et garder les mesures gouvernementales pour protéger la souveraineté de la nation indonésienne. Le président du Conseil de coordination des investissements de l'Indonésie, BKPM, Franky Sibarani, a été remplacé par le nouveau président du BKPM, Thomas Lembong. L'adjoint de la commission de contrôle des investissements de BKPM, Azhar Lubis, aux médias à Jakarta le mercredi, espère que le nouveau président de BKPM serait en mesure d'augmenter la plus grande valeur d'investissement et poursuivre la politique précédente qui peut encourager la cible d'investissement. Le secrétaire général de l'unité de travail des ulémas indonésiens, Muhammad Ahraf Ali, a insisté le gouvernement indonésien, les amoureux de la liberté et la communauté internationale de soutenir le droit des musulmans du Cachemire pour l'autodétermination. Comme cité Antara, les musulmans du Cachemire ont souffert à cause des atrocités pendant 70 ans. Lors d'un séminaire pour commémorer la journée noire du Cachemire organisé par le Forum de la solidarité du Cachemire à l'ambassade du Pakistan à Jakarta mercredi, Muhammad Ahraf Ali a affirmé que le peuple indonésien qui comprenait les musulmans devrait encourager la cessation des atrocités subies par le peuple du Cachemire. Selon lui, la tragédie humaine qui se passe au Cachemire à cause des atrocités de troupes indiennes qui ne sont plus être tolérées. L'ambassadeur du Pakistan à l'Indonésie, Muhammad Akil Nadim, a déclaré que récemment, il y avait des troubles au Cachemire après la mort du chef du Cachemire, Burhan Wani. L'ambassadeur du Pakistan espère le soutien de la communauté internationale pour l'autodétermination du peuple du Cachemire, comme les résolutions émises par les organisations des Nations Unies. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
<t'->
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiquiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serge Mlantin, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, la troisième phase de la peine de mort. Dans un avenir proche, la mise en œuvre de la peine de mort pour les auteurs de crimes graves aura lieu. Bien qu'il reste encore en secret combien de détenus condamnés à mort à être exécutés, le procureur général a informé que les préparatifs ont atteint le stade final. Sur la base des données du bureau du procureur général, le nombre de détenus de mort en Indonésie est actuellement inscrit 152 personnes, comprenant 92 condamnés pour des affaires de meurtre, 2 pour les affaires de terrorisme et 58 pour deux cas de drogue. La famille et les proches des détenus espèrent certainement qu'il y ait un miracle pour les détenus à éviter de la peine de mort. En outre, les avocats des détenus qui sont en concurrence avec le temps ont également tenté de libérer leurs clients des peines capitales ou d'obtenir une peine réduite, entre autres en utilisant les droits de condamné en demandant la clémence du président Joko Widodo. Jusqu'à présent, pour les affaires de drogue, il n'y a pas d'excuses. Seuls les militants des droits humains ont gardé de poursuivre l'examen humain pour éliminer la peine de mort, parce qu'il viole les droits humains et pas une mesure efficace pour réduire la criminalité. De plus, il y a des détenus qui sont soupçonnés d'être victimes de traite des êtres humains. Pendant près de 2 ans du gouvernement du président Joko Widodo, 14 condamnés de la drogue ont été exécutés. Maintenant, il reste à attendre le temps de procéder à la troisième phase de la peine de mort. Ceci est un signal fort que l'Indonésie est très sérieuse pour lutter contre un crime extraordinaire, la drogue. L'année dernière, certains pays étrangers comme l'Australie doivent voir leurs citoyens en course d'exécution en raison de cas de drogue, sont toujours en doute et même ouvertement opposés à l'application de la peine capitale. Mais l'Indonésie a déclaré fermement que l'Indonésie est actuellement confrontée à des situations d'urgence de drogue. D'année en année, il y a un nombre croissant d'usagers de drogue. Par conséquent, les toxicomanes sont victimes. Cela ne comprend pas un impact à long terme lié aux ressources humaines pour la durabilité de la nation indonésienne. Dans une telle situation, l'Indonésie espère que d'autres pays dans le monde comprennent les mesures prises par le gouvernement indonésien. Même, ils devraient contribuer. Ainsi, les affaires de drogue massives qui ont été transformées en un crime transnational peuvent être résolues. Le gouvernement indonésien ne peut pas libérer tout son peuple de la menace des drogues en appliquant seulement la peine de mort. Cette étape doit être effectuée en conjonction avec les mesures préventives. Il y a plusieurs façons qui ont été faites et sont très susceptibles de le faire, mais la prévention la plus efficace est d'éliminer la source. Dans tous les pays, s'il y a des activités de production de drogue, ils doivent être immédiatement traités fermement. En conséquence, l'urgence de la drogue n'aurait pas besoin d'être vécue par d'autres pays. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec le 27 juillet comme Journée mondiale de l'hépatite. La Journée mondiale de l'hépatite, célébrée le 28 juillet chaque année, vise à sensibiliser l'opinion mondiale de l'hépatite B et de l'hépatite C et d'encourager la prévention, le diagnostic et le traitement. Environ 500 millions de personnes dans le monde vivent avec l'hépatite B ou l'hépatite C. Sinon pas traitées, l'hépatite B ou C peuvent conduire à la cicatrisation avancée du foie ou cirrhose et d'autres complications, y compris le cancer du foie ou une insuffisance hépatique. Alors que beaucoup de gens sont plus préoccupés par le sida que l'hépatite. Le fait est que chaque année, 1,5 million de personnes dans le monde meurent de l'hépatite B ou C. L'autre information est le 28 juillet 1976, un tremblement de terre dévastateur a frappé le nord de la Chine. Un tremblement de terre qui a eu lieu le matin à environ 3h45 a secoué la Chine continentale, précisément la ville Tangshan au nord de Beijing. La ville a été frappée par un tremblement de terre de 7,8 sur l'échelle de Richter. La secousse a finalement détruit l'une des grandes villes minières en Chine avec une population de plus d'un million d'habitants. On estime que le nombre de morts a atteint plus de 250 000. Le tremblement de terre de Tangshan, donc, devenait l'un des tremblements de terre meurtrières dans l'histoire des catastrophes naturelles dans le monde. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec le 28 juillet 1990, Alberto Fujimori devenait président du Pérou. Alberto Kenya Fujimori a été président du Pérou qui a servi du 28 juillet 1990 jusqu'au 17 novembre 2000. Il est la troisième personne d'origine asiatique qui est devenue chef de l'État d'un pays sud-américain. La première était Arthur Chung 1970-1980 comme le président du Guyane mais n'a pas de pouvoir exécutif. La deuxième était Dr. Heng Chin Asen, 1980-1981, au Suriname. Dans son mandat, Fujimori a réussi à rétablir la stabilité macroéconomique après la présidence d'Alan Garcia et a porté la paix dans le pays qui était dans la tourmente. Fujimori a également réussi à libérer des dizaines de personnes, les otages de rebelles Tupac Amaru, dans une attaque contre la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima. Cependant, il a également critiqué comme un dirigeant autoritaire. Un scandale de corruption impliquant le chef du renseignement péruvien était noyé sa popularité. À la fin de 2000, après la réunion de la CIAP à Brunei, il est allé au Japon et a démissionné en tant que président du Pérou en envoyant une lettre de démission par fax à l'ambassade du Pérou au Japon. Mais finalement, il est arrêté et extradé vers le Pérou. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie pénètre le marché des Philippines à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN ». L'Indonésie pénètre le marché philippin qui connaît la croissance économique rapide pendant les 5 dernières années dans l'ère de la communauté économique de l'ASEAN. Le chef adjoint des représentants indonésiens à Mani, M. Adi Petranto, a déclaré à Jakarta lundi, cité par Antara, que l'économie philippine a montré une augmentation rapide au cours des 5 dernières années. En 2015, les exportations de l'Indonésie aux Philippines ont atteint 3,92 milliards de dollars américains à la position de l'excédent indonésien qui ont atteint 3,24 milliards de dollars américains. Dans le domaine de l'investissement, pendant la période 2011 jusqu'à 2015, l'investissement philippin en Indonésie a atteint 25 millions de dollars américains. Par conséquent, il a tenu la campagne intégrée intitulée Wonderful Indonesia Festival au centre commercial Glorieta, l'un des centres commerciaux les plus populaires dans le quartier central des affaires de Makati, Metro Mani, les Philippines, du 25 juillet au 26 juillet 2016. Adi Petranto a souhaité que cette activité puisse promouvoir l'Indonésie à la communauté philippine, y compris l'augmentation de la valeur des exportations de l'Indonésie aux Philippines et la valeur des investissements, et aussi la visite des touristes les Philippines en Indonésie. La campagne intégrée comprend l'exposition des produits de commerce, de l'investissement, le tourisme et l'éducation à la population de Mani. Les exposants de la promotion intégrée se composent de représentants de 23 entreprises, 7 agences de voyage et des entreprises qui ont envoyé des produits d'affichage, comprennent des produits alimentaires et des boissons, l'artisanat, les produits pharmaceutiques et les produits à base de plantes et des produits de soins du corps. L'exposition est soutenue par la participation de Jakarta, des provinces de Java, Bali, des micro, petites et moyennes entreprises du nord de Sulawesi. Selon Adi Petranto, dans cette exposition, l'Indonésie a donné des informations concernant l'excellence dans les principaux secteurs de l'investissement en Indonésie, y compris le secteur dans le domaine de l'éducation. Wonderful Indonesia Festival est soutenu par le ministère du Tourisme indonésien qui envoie une équipe des arts spéciales, Bandung Ethnic World, et l'autre fonctionnaire ministère du Tourisme, M. Edi Susilo, a déclaré que les Philippines étaient l'une des postes de touristes qui ont un grand potentiel. Cette année, le ministère du Tourisme a l'intention d'inviter 275 000 touristes en provenance des Philippines. La réalisation de la visite des touristes philippines en Indonésie l'année dernière a atteint plus de 143 personnes. Chers amis, c'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'Habitat, Juan Clo, a dit le mercredi à Surabaya que tous les pays et participants étant inclus dans le comité préparatoire de la troisième conférence d'Habitat à Surabaya Java East montrent l'engagement solide pour préparer le projet de nouveau programme urbain d'être valide dans la troisième conférence d'Habitat l'octobre prochain. Il a dit qu'il y a deux problèmes liés à l'urbanisation qui deviennent l'objet principal de la discussion du nouvel agenda urbain, à savoir le développement urbain et le changement climatique.
And those main issues are related to two aspects very specifically. One is development, that's to say that urbanization should be considered as a tool for development.
Les deux questions principales sont la première est le développement urbain. L'urbanisation doit être placée comme un outil à des fins de développement. Et le second est le changement climatique. L'urbanisation doit être exécutée en conformité avec les efforts que nous avons convenus à Paris le décembre dernier, à savoir le but de diminuer la température de la planète de Terre par 1,5 degrés Celsius. Selon Juan Claus, afin de résoudre ces deux questions, la conception d'un nouvel programme urbain doit changer le processus d'urbanisation pour réduire les problèmes résultant souvent, tels que la mise en terre. Il a dit que le gouvernement de chaque pays devrait être en mesure de faire de la politique fondée sur les efforts pour soutenir l'amélioration du système d'urbanisation. Ceci a besoin d'une politique à long terme, un engagement fort du gouvernement et le soutien de toutes les parties. La délégation indonésienne donne la priorité à la culture d'être une nouvelle dimension et les relations complémentaires des villages dans le comité préparatoire 3 à l'approche de la troisième conférence d'habitat à Surabaya. Le leader du comité préparatoire 3, Rina Agustine Indriani, le mercredi à Surabaya a dit « L'aspect culturel devient l'une des dimensions de développement urbain continuel à compléter les aspects sociaux, économiques et d'environnement. » Selon Rina, la culture devient un aspect important dans le développement de l'identité urbaine.
Jadi ada satu dimensi yang menjadi penting untuk dimasukkan yaitu mengenai budaya. Budaya menjadi salah satu hal.
Donc il y a une dimension importante d'être inclus, à savoir la culture. La culture devient l'aspect important dans le développement urbain, si bien qu'une ville possède l'identité. À Surabaya, par exemple, on ne développe pas seulement la physique, mais aussi les dimensions sociales et culturelles. Rina Agustin Indriani, étant aussi secrétaire du directorat général de Cipta Karya du ministère du Développement public du Peuple, a ajouté dans les journaux Zille, et les liens entre les zones terrestres et marines deviennent l'entrée qui est reçue par tous les pays. Selon Rina, les avantages de la résilience urbaine doivent être bénéfiques pour la communauté. Elle a également souligné l'importance d'intégrer la société et de l'urbanisation dans la meilleure planification urbaine. Le président Joko Widodo a été accompagné par l'ancien premier ministre japonais Yasuo Fukuda, a fait une déclaration de presse à la suite d'une réunion au Palais d'État Jakarta mercredi. Le président Joko Widodo a affirmé que la réunion avec les PDG des plus grandes entreprises du Japon regroupées dans l'association Japon-Indonésie dirigée par Yasuo Fukuda avait montré une grande confiance. Parce que Yasuo Fukuda a déclaré que la stabilité politique et économique en Indonésie est beaucoup mieux par rapport à d'autres pays. Yasuo Fukuda a déclaré que dans une réunion avec le président Joko Widodo, il a discuté des questions économiques et l'importance de la stabilité économique et la prospérité en Indonésie. Un politicien du Parti national démocrate, NASDEM, Martin Manuhung, a soutenu le ministère des Affaires étrangères relative à la résolution des conflits de la mer de Chine méridionale. Il a expliqué que le parti NASDEM soutient la mission du ministère des Affaires étrangères pour résoudre la limite territoriale de l'Indonésie en mer avec les pays voisins. Martin a déclaré que le gouvernement devait respecter le droit international et garder la paix liée à la décision du tribunal d'arbitrage de la Convention de l'ONU sur le droit de mer des conflits en mer de Chine méridionale le 12 juillet 2016. Selon lui, tous les citoyens indonésiens peuvent soutenir et garder les mesures gouvernementales pour protéger la souveraineté de la nation indonésienne. Le président du Conseil de coordination des investissements de l'Indonésie, BKPM, Franky Sibarani, a été remplacé par le nouveau président du BKPM, Thomas Lembong. L'adjoint de la commission de contrôle des investissements de BKPM, Azhar Lubis, aux médias à Jakarta le mercredi, espère que le nouveau président de BKPM serait en mesure d'augmenter la plus grande valeur d'investissement et poursuivre la politique précédente qui peut encourager la cible d'investissement. Le secrétaire général de l'unité de travail des ulémas indonésiens, Muhammad Ahraf Ali, a insisté le gouvernement indonésien, les amoureux de la liberté et la communauté internationale de soutenir le droit des musulmans du Cachemire pour l'autodétermination. Comme cité Antara, les musulmans du Cachemire ont souffert à cause des atrocités pendant 70 ans. Lors d'un séminaire pour commémorer la journée noire du Cachemire organisé par le Forum de la solidarité du Cachemire à l'ambassade du Pakistan à Jakarta mercredi, Muhammad Ahraf Ali a affirmé que le peuple indonésien qui comprenait les musulmans devrait encourager la cessation des atrocités subies par le peuple du Cachemire. Selon lui, la tragédie humaine qui se passe au Cachemire à cause des atrocités de troupes indiennes qui ne sont plus être tolérées. L'ambassadeur du Pakistan à l'Indonésie, Muhammad Akil Nadim, a déclaré que récemment, il y avait des troubles au Cachemire après la mort du chef du Cachemire, Burhan Wani. L'ambassadeur du Pakistan espère le soutien de la communauté internationale pour l'autodétermination du peuple du Cachemire, comme les résolutions émises par les organisations des Nations Unies. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiquiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous nous rencontrons dans la rubrique du magazine culturel. Ce soir, nous vous introduisons la plage Kaloko. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie. Donggala est une résidence à Sulawesi Central. La capitale de cette résidence est située à Banawa. Cette résidence est célèbre avec son tourisme maritime. Pas étonnant en effet, parce que Donggala est située dans la région montagneuse Balé et la Palawang qui se prolonge vers le sud et entourée de superbes plages. Les belles plages avec le sable blanc. Naturellement, beaucoup de touristes viennent à Donggala pour profiter de la beauté de ces plages. L'une des nouvelles plages qui est célèbre pour sa beauté est la plage Kaluku. La beauté de cette plage se propage rapidement grâce à l'aide des réseaux de médias sociaux. La plage Kaluku est à environ 5 km au sud-est du village Limboro. Ce site est à environ 10 km de la route nationale Poros Donggala-Mamuju. L'accès à l'intérêt touristique est encore en chemin à l'objet touristique Pusat Laut, une autre attraction dans le district Banowa Central à Donggala. Il est situé à côté de la plage Kaluku. Vous pouvez toujours aller à la plage sans frais d'entrée et de parking. Comme son nom l'indique, Kaluku dans le langage Kaili, la tribu majoritaire à Sulawesi centrale, signifie la noix de coco. Sur la plage, des cocotiers des résidents locaux restent fermes face à la mer. Les arbres de noix de coco ne sont pas collectés qu'à l'entrée de l'intérêt touristique. Parce que c'est couvert d'arbres de noix de coco, les populations locales appellent cette plage la plage Kaluku. Cette plante annuelle est devenue une marchandise à Donggala. Dans le passé, l'huile est transformée en copra qui est ensuite envoyée à Makassar et Surabaya. Après que le port Donggala a déménagé à Pantoloan, il n'y a pas beaucoup d'activités expédition de copra. Cette plage a l'eau de la mer cristalline avec du sable blanc écuis. Le long de la plage, des palmiers sont restés fermes. Le sable blanc étend du nord au sud jusqu'à 1 km. Le plan de sable est souvent utilisé par les visiteurs de se mêler parce qu'il n'y a aucune roche. Les touristes bronzent, courent et jouent à la belle dans la plage de sable. Là, vous pouvez nager. En plus de la natation, n'oubliez pas de regarder la beauté du coucher du soleil. Sur la plage, il y a aussi la superficie forestière de mangrove Kaluku d'environ 3 hectares où vous pourrez découvrir sa beauté. Une autre particularité de ce site touristique est la présence de 3 balançoires en bois. Ces balançoires en bois sont aussi hautes que 3 mètres situées sur le côté droit de l'accès à l'attraction touristique. Fait intéressant, ce lieu de détente se trouve au point de la marée et souvent utilisé comme endroit attrayant pour les couples de pré-mariage. Vous pouvez également louer un bateau de pêche local pour profiter du bleu du détroit Makassar. Le prix de location est négociable. Le long de la côte, il y a aussi un gazebo en bambou simple de chaume de feuilles de palmier. Vous pouvez prendre un abri sans payer. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie. Merci de votre fidèle attention. À demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec l'Indonésie en couleurs et en pour titre la journée mondiale de l'hépatite. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. le 28 juillet chaque année est célébré comme journée mondiale de l'hépatite pour accroître la sensibilisation mondiale sur l'hépatite et d'encourager la prévention, le diagnostic et le traitement. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fixé le 28 juillet la journée de l'hépatite car elle coïncide avec la date de naissance d'un professeur nommé Baruch Samuel Blumberg, un médecin qui a remporté le prix Nobel grâce à sa découverte, le virus de l'hépatite B, en association avec son vaccin en 1976. Une maladie qui attaque le foie est en fait composée de divers types allant de A, B, C, D et E. Chaque type d'hépatite est caractérisé par le virus. La cause est un mode de vie malsain. Elle peut se propager par un virus transmis par le sang ou d'autres fluides corporels. Parmi les autres types, l'hépatite B est le plus redouté car ceci est la 8e maladie mortelle dans le monde, car il peut causer le cancer du foie. En outre, la transmission de la maladie peut se produire de la mère à l'enfant lors de l'accouchement ou par des rapports sexuels et des transfusions sanguines. Lors de la réunion de l'Assemblée mondiale de la santé en mai dernier, les pays membres de l'OMS ont décidé d'adopter la première stratégie, l'élimination de l'hépatite, avec l'objectif ambitieux d'éliminer l'hépatite comme une menace pour la santé publique en 2030. C'est la première fois que les gouvernements des pays membres se sont engagés au bout d'éliminer le virus de l'hépatite. Marquage ce moment historique et pour améliorer cet engagement politique, cette année, le thème de l'Organisation mondiale de la santé est l'élimination dans la commémoration de la Journée mondiale de l'hépatite. Ce thème sera adapté pour une utilisation locale à chaque pays. Le cas de l'hépatite en Indonésie est actuellement estimé à 28 millions de personnes, dont 14 millions seront potentiellement chroniques. Et 10% des chroniques seront cirrhoses, même le cancer du foie. Parmi les autres types d'hépatite, l'hépatite B et C peuvent être chroniques et peuvent devenir cirrhoses et le cancer du foie. Par conséquent, dans le contrôle de l'hépatite, ce sont l'hépatite B et C qui ont l'impact très sérieux sur le degré de la santé publique. Comme tenu que l'Indonésie est le pays de forte endémique contre l'hépatite en 1997, le gouvernement a fait des efforts de prévention en commençant de donner la vaccination contre l'hépatite B dans les nouveaux-nés à l'échelle nationale. La prévention est également faite par la projection du sang à transfuser en unité de la transfusion sanguine de la Croix-Rouge indonésienne. Chers amis, c'est un Indonésie en couleur pour ce soir. Rendez-vous demain avec un sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop, Reza Artamevia. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson de Reza intitulée Kepastian. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était la première chanson de Reza Artamevia intitulée Kepastian. Le succès d'un enfant parfois n'échappe pas du rôle de la mère qui comprend la psyché et le talent de l'enfant. Donc, une chanteuse pop indonésienne qui était populaire dans les années 2000, Reza Artamevia, a été guidée par la mère à développer ses talents depuis l'enfance jusqu'à ce qu'elle ait réussi à être la chanteuse top dans ce pays. Depuis l'enfance, Reza aimait à chanter. Sa mère demande toujours le petit Reza pour prendre le temps de chanter. Grâce à la direction de sa mère, Reza Artamevia a commencé à tester sa capacité au Festival des chanteurs d'enfance et Reza a gagné le deuxième champion. Lors de l'adolescence, Reza a rejoint le groupe musical Konu Dewa Dinov. Ahmad Dhani a invité Reza à essayer ses talents pour poursuivre une carrière solo. Dès le premier album produit par l'une des entreprises d'enregistrement à Jakarta, le nom Reza Artamevia était plus célèbre dans la musique pop indonésienne. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante de Reza intitulée Cintakan Membawamu. Bonne écoute.
Mencintaiku kembali di sini menuai rindu membasuh perih bahasa dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa
longtemps. Je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse pop indonésia, Reza Artamevia. Reza Artamevia était plus populaire grâce à son album de collaboration avec le chanteur japonais Masuki Ueda avec son hit duo populaire intitulé Biarlah Menjadi Kenangan. En outre, la chanson de Reza, intitulée Keajaiban, a été devenue le hit single par Masuki Ueda au Japon après avoir été traduit en anglais. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Reza, intitulées Ketulusan. Bonne écoute et à bientôt! Auditrices et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1057 Jakarta Timilongs, Indonesia. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.